bonjour et Bokertov, Nechama.
Bokertov, Didier.
Qu'est-ce que je suis content de vous retrouver.
Moi aussi.
Tous les mardis, c'est toujours un vrai bonheur de vous retrouver. Vous m'avez dit, cette semaine, on va parler du fait de savoir pourquoi être juif, et on va le faire en deux parties, cette semaine et la semaine prochaine.
Oui, exactement. C'est une chronique en deux parties, parce qu'en fait, j'aimerais parler d'un sujet qui me tient beaucoup à cœur. Et en fait, plus qu'un sujet, Didier, je dois avouer que c'est un livre. C'est un livre qui m'emmène énormément de réconfort ces temps-ci. Et je pense qu'on a tous besoin de réconfort. Les nouvelles, c'est pas à vous que je dois le dire, sont très compliquées. Et on a énormément de voir où perce la lumière, ou en tout cas de nous comprendre même nous-mêmes, je dirais. Hein, parce que ces derniers mois, on a eu des réactions de tristesse, d'énormes tristesse, de colère. Parfois aussi, je pense qu'on a aussi eu du mal à nous comprendre nous-mêmes. Et ce livre m'a énormément réconfortée. Donc voilà, ce livre s'appelle « A Letter in the Scroll », c'est-à-dire « Une lettre dans le manuscrit ». C'est un livre qui a été écrit par Jonathan Sacks dans les années 90. Donc ça fait déjà un petit temps, ça fait déjà presque 30 ans.
Et qui est Jonathan Sacks ?
Alors Jonathan Sacks a été le chief rabbi, le grand rabbin de l'Angleterre pendant des années.
D'accord.
Et il est malheureusement décédé un petit peu après le Covid. Donc il y a un an et demi, deux ans qu'il est décédé. C'est vraiment un homme d'une sagesse.
Je me souviens, vous l'aviez évoqué, je pense, dans une chronique précédente, il y a déjà un petit temps, effectivement.
Exactement. Pour moi, c'est vraiment un des plus grands sages de notre histoire contemporaine. Vraiment, j'encourage nos auditeurs à lire ses livres, à écouter ses commentaires. Il y a énormément de publications de livres qu'il a édités, mais il y a aussi tout un site internet avec énormément de matériel. Voilà. Donc, par exemple, si vous voulez avoir la paracha de la semaine, vous allez dans son site, ça s'appelle Covenant and Conversation, et vous avez la paracha de la semaine dans toutes les langues. Enfin, il y a une dizaine de langues, donc vraiment, vous pouvez trouver en français.
Dont le français.
Dont le français, exactement. Et ce qui est très intéressant, c'est que vous avez par année. Donc, chaque année, lui sortait une petite vidéo de 10 minutes sur la paracha de la semaine.
D'accord.
Et puis, vous pouvez vraiment lire toutes ces drachotes, ces explications de la paracha d'année en année. Il a aussi ce qu'on appelle une family edition, l'édition de la famille. Et donc, vous pouvez l'imprimer avant Shabbat et à la table de Shabbat, la sortir. Et dedans, il y a un résumé de la paracha, une explication, des questions pour la conversation, etc. C'est génial, c'est vraiment
quand vous
génial.
Dites « a letter in the... »
In the scroll.
In the scroll. Une lettre dans le manuscrit, c'est une lettre, genre on écrit une lettre, ou bien c'est une lettre comme une lettre de l'alphabet? Est-ce que c'est un peu kabbalistique ou pas du tout?
Alors voilà, le livre s'appelle comme ça, c'est un livre qui a à peu près 200 pages. J'aurais dû vous l'emmener aujourd'hui, on l'aurait vu ensemble. C'est un livre jaune. Et en fait, toute l'idée du livre, Didier, c'est de poser la question... pourquoi être juif?
Ben justement.
Et voilà. Et donc, ce que Jonathan Sacks vient avec une espèce d'idée assez intéressante, il dit qu'il y a des étudiants qui sont venus le voir en lui disant « on va ouvrir un nouveau course, une nouvelle session d'études à l'université. On voulait une autre thématique. »
Quand vous dites un étudiant, ça veut dire qu'il était professeur, genre yeshiva, ou un professeur d'université
non,
lambda?
Non, c'était des étudiants, des élèves de l'université qui, qui voulaient ouvrir une nouvelle session universitaire. Ils cherchaient des thématiques différentes liées au judaïsme.
D'accord.
Et ils ont demandé à Jonathan Sacks d'aider un petit peu à créer le curriculum, le
c'était
programme,
pas une yeshiva,
etc.
Quoi,
non,
dire.
C'était pas une yeshiva.
D'accord.
Et en fait, ils sont partis sur l'idée de poser la question à 200 personnes différentes ce que ça voulait dire pour eux d'être juifs. Et ils ont beaucoup travaillé sur une sélection de ces 200 personnes. Donc, ils ont choisi des personnes qui avaient été des prix Nobel juives, mais aussi des rabbins, des personnes qui se retrouvent totalement athées dans leur judaïsme, mais qui ont contribué à l'humanité. Donc, des personnes qui sont connues dans le monde de la littérature, comme
Einstein,
dans le monde du théâtre.
Exemple,
exactement, mais des personnes vivantes. Ils ont choisi ces personnes vivantes. Ils leur ont écrit des lettres en leur demandant « Est-ce que vous pouvez nous écrire une petite page pour nous expliquer ce que ça veut dire pour vous que d'être juif ?»
D'accord.
Et Jonathan Sacks aide ses élèves justement à sélectionner ces personnes, à écrire, drafter la lettre. La lettre est envoyée, puis les mois passent et Jonathan Sacks n'a pas de nouvelles de ses élèves. Et donc, il les contacte après quelques mois déjà. Il leur dit « Mais que se passe-t-il de ce cours qu'on était en train de créer ensemble, etc. Voilà, qu'en est-il des lettres ?» Et les élèves lui disent très tristement, ils disent « Mais en fait, on est très déçus. Sur les 200 personnes à qui on a demandé, on n'a reçu que 6 retours. Et sur les 6 retours, les lettres sont tellement décevantes qu'on s'est dit qu'il n'y a pas de matière à créer tout un cours de philosophie ou de théologie juive, etc., autour de ça. Et donc, Jonathan Sacks demande ses lettres. Et donc, il lit ses lettres. Et effectivement, les lettres sont... Voilà.
Ils ne sont pas très riches, on va dire, d'enseignement.
Voilà, exactement. Mm-hmm. Et donc, c'est à ce moment-là, vraiment, que Jonathan Sacks décide de se lancer dans ce livre-là et d'écrire lui-même sa propre réponse. Que veut-il dire pour lui que d'être juif ?
Alors, il y a encore une différence. C'est quoi être juif ? C'est une chose. Mais la question que vous posez, vous, c'est pourquoi être juif ? Alors que par définition, on sait que le judaïsme n'est pas du tout prosélyte. Donc, c'est pas quelque chose qu'on choisit, c'est quelque chose qu'on reçoit, d'une certaine façon, de par la naissance. Donc, la question est un petit peu, j'ai presque envie de dire, une oxymore, quoi, d'une certaine façon. Parce qu'elle n'existe pas. Parce que moi, je me suis jamais posé la question pourquoi je devrais être juif, puisque je le suis.
C'est une excellente question, Didier. C'est exactement ce qu'il emmène dès le premier chapitre, Jonathan Sacks, puisqu'il reprend dans l'histoire du peuple juif et il dit « Ces questions-là se sont posées à quatre moments, donc à quatre périodes les plus critiques de notre histoire. La première, c'est en -586, donc en 586 d'avant notre ère, exactement. Et ça a été à la suite de la destruction du premier temple. Et donc, la persécution du peuple juif à la suite de la destruction du premier temple, a été tellement violente que les rabbins, les sages de cette période-là se sont même posé la question « Est-ce que ça vaudrait vraiment la peine de continuer à être juif ?» Puisque notre destin nous sommes emmenés justement à la destruction, à la persécution, peut-être faudrait-il entre nous décider qu'il n'y ait plus de Zera Israël, de semence d'Israël, semence du peuple d'Israël. Donc en gros, on décide de ne plus avoir d'enfants. Comme ça, on arrête ça, on coupe ça maintenant, puisque de toutes les façons, on veut nous détruire. Pourquoi avoir des enfants si c'est pour savoir qu'ils vont être esclaves et qu'ils vont être complètement violés et détruits par justement ceux qui nous veulent tant de mal. Et donc cette première question a été déjà posée en l'an -586.
Ah bah dites-moi, et on n'a toujours pas la réponse.
Alors en l'an, attention, en l'an
on a des réponses, mais on n'a pas la réponse.
Voilà, en lançant de notre ère, à la suite de la destruction du deuxième temple, cette fois-ci par les Romains, cette question est de nouveau posée. Et donc, c'est assez intéressant de voir justement les réponses, encore une fois, des sages, dans lesquelles, encore une fois, les sages se sont dit, mais au final, peut-être faudrait-il tout simplement arrêter d'être juif.
Et puis la Shoah, et voilà. J'imagine...
La troisième fois qu'on s'est posé la question, Didier, ça a été en 1492, à la suite de la persécution des Juifs d'Espagne. Et donc, encore une fois, les sages se sont dit, mais au final, notamment Abarbanel qui a vraiment posé la question, Arama qui s'est aussi posé la question, ils se sont dit, mais au final, peut-être faudrait-il arrêter ce destin. Ce destin, il ne fait que nous suivre, au final, ces persécutions nous suivent, donc peut-être qu'il faudrait juste arrêter d'être juif. Et bien entendu, Didier, vous venez juste de le dire, la quatrième fois, après la Shoah, cette question se repose une quatrième fois. D'ailleurs, on a tous dans nos familles ou dans nos amis...
Une question qui me vient très spontanément... Nechama,
dites-moi Didier.
Est-ce que le 7 octobre sera la cinquième fois qu'on se posera la question ?
Ça, c'est la raison pour laquelle j'emmène ce livre aujourd'hui, Didier. Parce que c'est assez ironique de vous dire, Didier, que quand j'ai lu ce livre il y a 3 ans, j'ai énormément aimé ce livre. Il m'a donné beaucoup de réponses pour ma vie aussi. Mm-hmm. Mais à la suite du 7 octobre, j'ai ressorti ce livre de ma bibliothèque et je l'ai relu. Et tout d'un coup, Didier, cette lecture a été totalement différente. Elle a été tellement plus vivante et tellement plus prenante. Elle m'a donné tellement de réponses, en fait. Et c'est la raison pour laquelle je m'adresse à nos auditeurs aujourd'hui et je parle de ce livre. D'abord, je vous encourage à aller le lire. Tristement, il n'existe pas en français. Donc, si quelqu'un veut le traduire en français, vraiment, appelez-moi. Moi, j'aimerais vous aider parce que je trouve que c'est un livre qui doit être... Non, ils inventent des trucs, c'est encore différent. Mais on a des Google Translate qui sont pas si mal. Mais voilà.
Mais c'est un peu littéral, hein, le Google Translate. Il pleut des chats et des chiens.
Oui, exactement. Il faut faire attention. Mais en tout cas, voilà. C'est un livre qui résonne beaucoup plus, de manière beaucoup plus vraie aujourd'hui. Et c'est la raison pour laquelle je voudrais en parler. Alors, bien entendu, je ne vais pas raconter tout le livre. Hein. Il va falloir que vous le lisiez vous-même, vous tous, nos auditeurs. Mais voilà, j'avais envie d'emmener quelques pistes intéressantes aujourd'hui et de dire que, justement, c'est des questions qui se sont posées dans les moments les plus graves de notre histoire.
Justement, vous faites référence à ça. C'est une référence que j'ai, qui est un clin d'œil, bien évidemment. C'est l'humour, c'est clair. Dans le film, vous avez certainement vu Un violon sur le toit. J'imagine.
Bien sûr.
Vous avez un moment, le protagoniste qui s'adresse à Dieu, qui lui dit « Je sais que nous sommes le peuple élu, mais est-ce que de temps en temps, vous pourriez pas en élire un autre ?» Ça illustre un petit peu les questions et le questionnement des sages que vous évoquiez à l'instant, non ?
Exactement, Didier. On se pose vraiment cette question aujourd'hui avec les nouvelles qui viennent. On se dit élu de quoi, élu pourquoi, et, mm-hmm. et c'est quoi ce destin qui nous poursuit, qui nous pourchasse et qui est si difficile à digérer. Et en fait, un des éléments de réponse, Didier, puisque notre chronique est bientôt finie aujourd'hui, mais on va continuer la semaine prochaine, mais un des éléments de réponse que Jonathan Sacks apporte dès le premier chapitre, il dit « Le judaïsme aujourd'hui n'est plus une destinée commune, mais il est un choix. Il est un choix individuel. » Et c'est vrai, Didier, aujourd'hui, on a le libre choix de pratiquer notre judaïsme dans pratiquement tous les pays du monde, en tout cas en Europe, aux États-Unis, etc. On peut pratiquer. Alors, je sais que c'est difficile, je sais qu'on doit avoir des militaires et des policiers dans les synagogues, etc. Je suis bien au courant de tout ça, mais on peut quand même pratiquer.
Ça, c'est au niveau logistique, mais voilà. Il faut parler plus de l'intime. Ça fait quand même, référence et appel à tout ce qu'il y a de plus intime, la foi, en règle générale. C'est pas quelque chose qu'on reçoit, c'est quelque chose qu'on a ou qu'on n'a pas et qu'on cultive.
Qu'on travaille. Mm-hmm. Et c'est en ça que le livre est tellement intéressant, Didier, puisqu'en fait, Jonathan Sacks parle du judaïsme comme d'une foi active. Et c'est en ça que ça a énormément résonné pour moi, puisque au final, on a tendance à voir la foi comme cette espèce d'illumination avec laquelle on serait né ou pas né d'ailleurs. Et donc on se dit, j'ai la foi ou j'ai pas la foi. D'ailleurs, ça a été notre conversation d'avant l'antenne il y a quelques minutes. Qu'est-ce que vous me disiez, Didier ?
Je vous disais que on y reviendra probablement la semaine prochaine, mais je vous disais que pour moi, ça me parle de manière assez intéressante, dans le sens où moi, je ne suis pas pratiquant, je ne suis pas croyant non plus, je suis pas athée, mais agnostique, on va le dire. Et pourtant, je me sens mais incroyablement juif, et pas que par les temps qui courent, etc. Je me suis toujours senti extrêmement juif, faisant partie intégrante de ma communauté et de la philosophie ou de l'art de vivre juif.
Comment vous expliquez ça ?
J'ai aucune explication. En même temps, je le vis comme... je ressens les choses comme elles me viennent et je ne les analyse pas plus que ça en réalité.
Je pense que c'est...
Je devrais
bien entendu, bien sûr. Je ne peux pas vous dire ce que vous devriez faire.
Merci, docteur.
Chacun, complètement. Chacun a son petit bonhomme de chemin mm-hmm. à parcourir. Mais clairement, Didier, je pense que ce que vous venez déjà de dire, ce que vous venez juste de dire, c'est justement un élément de foi.
D'accord.
C'est-à-dire que vous dites, c'est dans la phrase de Maïmonide, il dit Ve afalpi sheit mamea achakelo. Et même s'il tarde, je l'attends. Et en fait, vous dites je ne vois pas, je suis agnostique, je ne suis pas croyant, etc. Mais however, comment on dit en français, mais
cependant,
pourtant, hein. je me sens tellement lié à cette histoire, etc., etc. C'est déjà un élément de foi.
D'accord.
C'est ce que Jonathan Sacks parle beaucoup, c'est que c'est un élément de foi, mais il faut qu'il n'y a pas de mais, et il faut continuer à l'activer,
alors,
à le mettre. Alors c'est l'activer. Les gens traduisent ça comme ils veulent. Je crois qu'il est tard.
Non, il nous reste 1 minute 30. Mais je voulais vous inverser la question et on terminera là-dessus. Dites-moi. Et on ne donnera pas de réponse. On n'ira pas plus loin dans la réponse. On y reviendra la semaine prochaine. Je voulais vous retourner la question. C'est quoi pour vous pourquoi êtes-vous juive ?
Je m'attendais pas à cette question je pourrais sûrement pas vous le dire en 1 minute 30.
Non, non, du tout. C'est pour préparer la semaine prochaine. On fait un petit teaser.
Pourquoi je suis juive ?
Non, pas pourquoi vous êtes. Pourquoi vous
Pourquoi je suis juive ? Parce que ma mère est juive. Mais ce que veut dire pour moi d'être juive, c'est de. Je vais me mettre à pleurer, Didier. Hein. C'est de faire partie de ce grand peuple. Ce grand peuple avec une histoire incroyable, cette résilience magnifique. Cette foi malgré tout, et de savoir intimement, Didier, intimement que Dieu est toujours avec nous, dans nos moments les plus joyeux comme dans nos moments les plus sombres, de savoir aussi que je ne comprendrai pas, ça c'est quelque chose qui est très très difficile à accepter, mais je le sais, et de savoir qu'on est émané d'une mission qu'il y a un but. En fait, c'est de savoir qu'il y a du sens sans le comprendre nécessairement. Et d'accepter que je ne comprendrai pas le sens des choses, car dans les limites de mon humanité, je ne le comprendrai pas. Mais de savoir intimement, vraiment, très, très, très au fond de moi, qu'il y a du sens et que notre travail à nous est justement de rajouter du sens à tous les moments de nos vies. Et de savoir que nous sommes des ambassadeurs de lumière, que le juif est un ambassadeur de lumière. Je dirais que l'humain est un ambassadeur de lumière. Mais le juif, de par la Torah, de l'apprentissage...
Le juif cultive cette lumière aussi.
Voilà, il doit continuer à cultiver cette lumière. Mmh. Il doit la porter avec énormément de fierté. Et je dirais presque, Didier, il doit la reconnaître. Et je m'arrêterai là, et ce sera notre session de la semaine prochaine. Comment retrouver cette lumière-là? Comment l'accepter? Comment embrace it? Comment la vivre pleinement.
Et l'accueillir surtout. Merci beaucoup, Nechama. On se retrouve la semaine prochaine avec grand bonheur. Belle semaine à vous. Bonne journée.
Belle semaine à vous aussi.
Au revoir.